instance et Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Les évangiles, c'est vraiment l'histoire de Jésus qui s'est approché, de Dieu qui s'est approché. À tout instant, le Seigneur est venu et il s'est approché. Encore ce matin, le Seigneur veut s'approcher de chacun d'entre nous. Et j'aimerais qu'on prenne ensemble un passage que j'apprécie beaucoup. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 4. Jésus est fatigué. Jésus a soif. Et Jésus vient s'asseoir sur un puits. Ce n'est pas n'importe quel puits, c'est le puits de Jacob. Sur la terre qu'il avait offerte à son fils Joseph. Et là, il se trouve sur ce puits. Mais ce puits, il arrive qu'une dame vient pour puiser de l'eau. Cette dame, elle vient d'un pays qui est un pays étranger. Étranger aux Juifs, étranger au peuple dont est issu Jésus. Cette femme, elle vient un jour où normalement, ce n'est pas le moment pour prendre de l'eau. Elle vient à un moment donné où elle veut se cacher peut-être du regard des autres. Mais là, il y a un homme. Cet homme est un juif. Alors elle fait comme si elle ne le voyait pas, elle vient, elle s'approche. Mais Jésus, lui, l'a vu. Et nous lisons au verset 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, mais comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. La première question, c'est qui parle en premier? C'est Jésus qui parle en premier. Jésus vient nous parler en premier. Si notre cœur est touché, c'est que Jésus est venu nous parler en premier. Nous sommes peut-être dans un endroit de notre vie, peut-être que nous connaissons des choses sur Jésus, peut-être que nous marchons déjà avec lui, mais tout à nouveau, le Seigneur veut encore nous parler. Et il veut simplement nous dire, donne-moi à boire. Ensuite, nous lisons, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et celui, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus ne répond pas forcément de la manière dont on s'attend le plus. Et ce que j'aime avec Jésus, c'est que tout de suite, il vient nous chercher dans nos profondeurs. Est-ce qu'il prend le temps de savoir comment elle va, d'où elle vient, quel est son nom? Non. Il fait comme s'il nous connaissait déjà depuis longtemps. C'est le cas. Mais là, il vient la chercher. Il vient la chercher tout de suite pour lui dire, mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderas à boire. Mais Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Nous sommes souvent avec des conceptions qui sont très terrestres. Nos préoccupations sont celles de tous les jours. Jésus nous parle d'abord sur nos profondeurs. Jésus vient d'abord traiter nos profondeurs avant de traiter le reste de nos vies. C'est pour ça... Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque aura toujours recours aux choses de la terre sera toujours affamé et toujours assoiffé. Si tu cherches, si je cherche, si nous cherchons sur cette terre, nous aurons évidemment de quoi vivre tous les jours. mais nous aurons toujours soif et toujours faim. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce passage nous parle vraiment de Jésus qui s'approche. Jésus qui prend le soin, merci, qui prend soin de nous, Jésus qui prend soin de nous en s'approchant. Mais Jésus commence forcément par cette phrase, « Donne-moi à boire ». C'est curieux quand même que Jésus s'approche de nous et nous pose une question, vienne nous demander quelque chose. Mais de quoi as-tu besoin, Seigneur ? Et surtout, mais qui suis-je pour que tu t'approches de moi ? Parce que cette femme, finalement, elle dit, mais nous n'avons rien en commun, normalement tu ne devrais même pas être avec moi, en train de parler. Tu devrais m'ignorer. Mais Jésus vient l'interpeller directement. Donne-moi à boire. Juste après, Jésus va donc lui dire, appelle ton mari. Puisque cette femme, elle a soif de cette eau. Elle dit, mais je ne veux que cette eau finalement. Je veux ne plus avoir soif. Au final, j'aimerais ne plus venir puiser ici, quelque part. Mais Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Et la femme lui répond, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. D'abord, Jésus vient chercher un cœur. Il te pose une question, il voit si tu es prêt à l'accueillir. C'est un accueil qui est simple, un accueil sur un besoin qui est simple. C'est pas compliqué, c'est pas fais-moi un palais en or, c'est donne-moi à boire. Donne-moi simplement à boire. Peux-tu simplement me donner quelque chose que tu as déjà dans ta main ? Donne-moi à boire. Et après, Jésus va pouvoir révéler le cœur. Il montre qu'il nous connaît en profondeur. Si nous connaissons Jésus depuis longtemps, parfois on peut avoir comme réflexe de s'auto-justifier. Je reviendrai après, du coup, sur la Samaritaine. Je vais juste faire un lien sur maintenant que nous avons entendu le Seigneur, maintenant que le Seigneur est peut-être entré dans nos vies, peut-être que nous avons cru, nous avons marché avec lui. Vient un moment où parfois nous sommes entre deux. Et j'aimerais lire avec vous Luc 18. C'est la parabole, une parabole intéressante, où deux hommes viennent pour prier. L'un est pharisien, un homme qui connaît la Bible, qui connaît la parole de Dieu, qui la médite, qui connaît des tas de choses sur cette parole. Et l'autre est un publicain, quelqu'un qui mène une vie où c'est compliqué, il vole un peu, il met de l'argent dans sa poche. Et en même temps, il est aussi entre deux, puisqu'il a un pied dans le monde et un pied dans l'église, il ne sait même pas trop où il en est. Le pharisien est debout, il prie. Ah, oh Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. Moi, je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. À côté de lui, le publicain se tient à distance. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Et il est là, seul, dans son coin, à se frapper la poitrine. Et il dit, ô Seigneur, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Jésus termine cette parabole en disant « Je vous le dis, celui-ci descendait dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Jésus n'est pas venu pour que nous soyons arrogants de ce qu'il nous a donné. Nous pouvons être fiers de ce qu'il nous a donné, mais pas arrogants. Si je suis arrogant, alors du coup, je suis en train de m'auto-justifier en permanence. Et je deviens inaccessible pour celui qui est à côté de moi. Il dit même, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Quand tu fais l'aumône, quand tu prends soin de quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues, dans les églises et dans les rues, afin d'être glorifié par les hommes. En faisant ainsi, moi je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu prends soin de quelqu'un, que ta main gauche ne sache même pas ce que fait la droite, afin que ton aumône, cet acte de bonté, se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui vient frapper les regards. Ce que le Seigneur est venu faire avec cette Samaritaine, c'est dans le secret. C'était entre elle et lui. Ce que le Seigneur fait dans vos cœurs aujourd'hui, ce qu'il a déjà fait dans votre cœur par le passé, mais qu'il continue, et aujourd'hui il le fait encore, c'est entre vous et lui. C'est entre nous et lui. C'est une relation personnelle. Mais quel est notre cœur? Quelle est notre attitude? Comment est-ce qu'on accueille le Seigneur? Dans Luc 18, on continue, on lui amena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât, qu'il prie pour eux. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Si je vais vers Dieu avec mes connaissances, qu'est-ce que Dieu peut me donner? Si je viens répéter tout ce que je sais de Dieu, où est la relation? Le petit enfant, c'est celui qui s'approche, heureux, heureux de trouver son père, heureux de trouver celui en qui il a toute sa joie. Le Seigneur nous donne un exemple qui est extraordinaire, ce petit enfant. C'est un exemple qui est merveilleux. Il n'y a rien de pire peut-être pour nous que d'être déçus par nos parents et d'avoir peur d'eux. Certains d'entre nous ont même été blessés par nos parents. Mais est-ce que dans cette attitude, nous pouvons revoir des moments où nous avons été heureux de retourner vers nos parents, d'aller les voir, d'être accueillis par un amour qui dépassait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait dire. On pouvait faire une bêtise la veille, leurs bras sont grands ouverts. Mais si nous avons peut-être des parents injustes, car tous les parents sont injustes, notre Père qui est dans les cieux, lui, est un Dieu juste, est un Père bon et juste, qui est parfait et miséricordieux, qui prend soin de chacun d'entre nous. Le but véritable, c'est de venir comme un enfant. Tantôt je serai un peu comme un publicain, tantôt je serai comme un pharisien. On a vite tendance à s'auto-justifier. Mais plutôt que de se raconter des belles choses, comment prouver à Dieu que nous sommes justes, Ça ne sert à rien. Notre cœur doit être dans l'humilité, afin de se laisser toucher par le Seigneur. Parce que si le Seigneur révèle quelque chose dans nos vies, mais que nous sommes hautains, nous sommes incapables de l'accueillir. Si Jésus pointe du doigt quelque chose dans nos vies en disant, juste, amène ton mari. Ça peut être autre chose, mais amène ton mari. Et dans notre vie, finalement, du coup, nous savons que juste ce point-là, il coince parce qu'on n'est pas tout à fait au clair. Si nous confessons notre vie au Seigneur, nous sommes comme un petit enfant. Nous sommes comme un petit enfant que le Seigneur prend et accueille. Quittons le domaine de la justification. Nous savons que pour être justifié, finalement, il ne sert de rien de dire à Dieu tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons pour lui. Nous savons que la justification se fait que par lui et par lui seul. Mais Jésus montre également quelque chose de très important. Reprenons Luc, chapitre 18, et c'est notre parabole. C'est une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, qu'il ne faut jamais se relâcher. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait également dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. » Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. C'est un moment particulier où, en fait, le Seigneur nous encourage à la prière, à l'insistance de la prière. Mais il va dire aussi ailleurs, dans Matthieu 6, chapitre 6, versets 5 à 15, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues, qui aiment à prier dans les églises ou en public pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent déjà leur récompense. Mais quand toi, tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. C'est intéressant parce que juste avant, on a lu que Jésus dit « Priez sans cesse !» Priez sans cesse ! Priez sans cesse ! Et après, il va le dire « Mais finalement, n'ayez pas trop de paroles vaines. » Alors c'est quoi le secret? Le secret, c'est le lieu secret. Le secret, c'est le lieu secret. Le secret, c'est notre cœur. C'est dans notre cœur que le Seigneur veut nous rencontrer. C'est au plus profond d'entre nous, au plus profond de nous, que le Seigneur veut nous parler. Ce n'est pas parce que du coup je vais faire une belle prière que le Seigneur va plus m'entendre que si je prie en silence dans mon cœur. Mais si je prie en silence dans mon cœur et que j'ai fait taire tout bruit extérieur, mon Père qui est dans le ciel, qui voit dans le secret, est là. Donc je reprends. Jésus s'approche de nous. Jésus prend le temps de s'approcher de nous. Il parle à nos cœurs directement. Il ne prend pas le temps de nous demander comment ça va. Direct, il parle au cœur. Tout de suite, il vient chercher nos profondeurs. Tout de suite. Si nous l'avons connu, peut-être sommes-nous dans la justification. Oh Seigneur, c'est bon, je suis déjà bien arrivé. Non, mais c'est bon, Seigneur. Regarde comme je suis bien, comme je suis juste. Regarde tout ce que je fais pour toi, Seigneur. Mais si je suis dans l'humilité et que je viens à lui comme un petit enfant, que dans mes mains je n'ai rien, si ce n'est mon cœur, il est là, il m'entend. Le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Il ne servirait presque à rien de prier. Alors pourquoi prier? Si nous insistons auprès de notre Père, mais évidemment qu'il va nous donner ce dont nous avons besoin. Évidemment qu'il va nous faire justice. Mais alors pourquoi prier? Si je prie et qu'il sait déjà tout ce que je vais dire à l'avance, à quoi ça me sert de prier? La prière, c'est la relation, c'est la discussion. Si mon cœur n'est pas dans la relation, alors je m'adresse à quelqu'un d'extérieur, de lointain. Peut-être que j'envoie une lettre par la poste en espérant qu'il réponde favorablement. Si notre Dieu est comme le président, lointain, avec des barrières pour l'accéder à travers une lettre, un courrier, avec possiblement aucune réponse de sa part. S'il est comme un roi lointain, alors je passe à côté de tout ce que Jésus est venu dire. Oui, Dieu est celui qui a tout créé. Oui, il est le créateur de la terre et des cieux. Oui. Mais il est ce Dieu qui est venu à travers Jésus pour nous montrer une relation toute particulière. Toute particulière. Si vous regardez, si nous regardons, dans l'Ancien Testament, nous voyons la vie des prophètes. Elle n'est pas comme les autres. Les prophètes n'ont pas besoin d'aller au temple comme les autres. C'est étrange quand même. Dieu leur parlerait personnellement, dans leur profondeur. Quand on voit le roi David, sa façon dont il a de pouvoir louer le Seigneur, la relation qu'il nous montre, c'est une relation dans les profondeurs. Ce n'est pas une relation extérieure. Alors que même s'il marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il sait qu'il ne craint aucun mal, car Dieu est avec lui. Peu importe où il serait, Dieu est avec lui. Pendant longtemps, je croyais qu'il y avait deux catégories de chrétiens. Je croyais qu'il y avait une catégorie qui était finalement la catégorie des élus, des dignes, peut-être même du coup de ceux qui pouvaient entendre la voix du Seigneur. Ceux-là, ils devaient vivre probablement dans les nuages intérieurement. Et puis il y avait les autres chrétiens. La plus grande partie, visiblement, parce que du coup, je préférais me dire que j'étais dans la plus grande partie que dans celle qui était la plus rikiki. Les autres chrétiens qui se débrouillent un peu jour après jour, à se démener un peu par eux-mêmes, par leur propre force, qui essaient d'appliquer un petit peu comme ils pouvaient des grands principes que Dieu leur avait donnés à travers la Bible. Quelque part, c'était un peu comme si, du coup, il y avait ceux qui vivaient la liberté, la joie, la communion, qui entendaient Dieu et Dieu vraiment les entendait, et les autres qui peut-être que Dieu ne les entendait pas vraiment. Mais en tout cas, oui, Dieu, bon, il avait quand même un regard bienveillant. Oui, prenez quand même soin d'eux, oui, bon, quand même. Heureusement, d'ailleurs. Mais cela, quelque part, il devait se débrouiller tout seul. Quelque part, chaque matin, s'il le faisait, c'était bon, allez, je vais ouvrir ma Bible pour lire un peu qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Ah, ok, bon, je vais essayer d'appliquer ça aujourd'hui. Oh là, c'est dur. Jusqu'au jour où. Jusqu'au jour où, première rencontre, le Seigneur vient me rencontrer personnellement, là où j'en suis, pas dans une église, même s'il me parle à travers quelqu'un dans une église, mais il vient me chercher là où je suis, dans mon quotidien. Et là, Saisi par son amour, je dis « Ok, d'accord, ok, je marche pour de vrai avec toi. Je suis passé à côté de l'essentiel, pardon Seigneur. J'ai essayé d'appliquer par mes propres forces et je me suis vautré comme pas possible. J'ai fait n'importe quoi, pardon. Je veux marcher, je veux te suivre, je veux voir en fait ce que c'est que la vraie vie avec toi. » Et alors qu'il vient en nous nous guérir, alors qu'il vient et qu'il abreuve notre cœur qui est desséché, alors que nous pleurons parce qu'il nous a touchés sur des points précis que nous ignorions, ben parfois on peut quand même marcher à côté de lui. La vie chrétienne, on peut complètement la passer à côté de Jésus. Et on peut donc de fait passer à côté de la vie chrétienne. Si ma vie chrétienne, c'est de marcher à côté de Jésus, je n'ai fait qu'à la première étape, le suivre. La deuxième étape, c'est de reconnaître qu'il vit en moi. Et ce n'est pas juste une idée dans ma tête. C'est qu'au fond de moi, au fond de moi, il est là. Il y a une porte vers les cieux. Au fond de moi, au fond de chacun d'entre nous, il y a une porte vers les cieux. Et c'est là que Christ se manifeste. C'est là que Dieu peut nous parler. Peu importe d'où nous venons, peu importe d'où nous venons, même si nous ne sommes pas de famille chrétienne, même si nous n'avons jamais entendu parler du Seigneur, ou même si on a entendu parler du Seigneur à l'extérieur, mais peut-être même qu'on est sur des chemins un peu à part, notre propre chemin quelque part. Peu importe. Au fond de nous, il y a une porte. Et c'est à cette porte-là que Jésus toque. Jésus, qui est tout puissant, pourrait éclater la porte et rentrer. Mais gentleman, il toque. Il toque. Et il attend juste que nous ouvrions la porte. Il toque chaque jour. Il n'y a pas un jour où il ne toque pas. Si ma relation avec Jésus est une relation extérieure, je passe à côté de ma vie. Je serai sans cesse en train de supplier en permanence que le ciel descende. Je serai en train de supplier des choses que lui veut déjà me donner par sa présence en moi. Aussi longtemps que nous restons en dehors, aussi longtemps que nous restons en dehors, nous restons des mendiants. Aussi, depuis ton intérieur, prie. Dieu t'y attend. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nous revenons avec notre Samaritaine, qui lui a révélé finalement du coup qu'elle a eu 5 maris. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Regardez son attitude. Elle n'est pas hautaine avec ses préceptes, avec sa doctrine. Alors qu'elle a été dans un milieu particulier, qu'elle a appris plein de choses sur comment adorer Dieu, elle ne dit pas « Ouais, mais vous, vous adorez un autre endroit, c'est pas juste. » Non. Elle pose la question. Elle se pose la question. Mais vous, vous dites qu'il faut adorer ailleurs, mais nous, nos pères, nous ont dit d'adorer. Quelque part, où est-ce qu'il faut adorer? Quand Jésus touche notre cœur, qu'il nous révèle qui nous sommes, notre état de pécheur, toutes nos bonnes conceptions de ce qu'il fallait faire, on les remet devant lui. toutes les doctrines s'effondrent devant lui. Où faut-il t'adorer ? Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous pourrez demander à Pierre Bonin ce qu'il en pense de qu'est-ce que ça veut dire en esprit et en vérité. Il pourrait parler pendant un bon moment. Mais je vais juste partager juste sur la base même de ce que c'est que finalement du coup adorer en esprit et en vérité. C'est adorer finalement du coup dans notre être intérieur. C'est adorer depuis l'intérieur. Ce n'est pas d'adorer depuis l'extérieur quelque part, c'est adorer depuis l'intérieur. Si pendant la louange je suis là et j'adore depuis l'extérieur ou j'adore vers l'extérieur, je manque encore le but. Si j'adore depuis l'intérieur, vers mon Dieu qui habite à l'intérieur, alors je sais que ma joie est complète. Alors je sais que je suis touché dans mes profondeurs. Je sais que le Seigneur vient me saisir. En reprenant chapitre 17 de Luc, versets 20 et 21, et on va vous lire du coup trois versions. Enfin, je dis « on » en fait parce que du coup, c'est mon ami Maxime du coup qui va nous mettre ça gentiment, mais on va lire ça ensemble. Les pharisiens demandèrent à Jésus « quand viendrait le royaume de Dieu ?» Ah, bonne question ça. Mais quand viendrait donc le royaume de Dieu ? Il leur répondit « le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là ». Car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. C'est intéressant ça. Combien de fois est-ce qu'on supplie le Seigneur, mais ah, oh, mais Seigneur, mais quand viendra ton royaume ? Et Jésus qui répond, il va pas venir de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si je prends une deuxième version. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, comme il est dit là, le règne de Dieu a déjà commencé et il est en vous. Je vais rester un petit peu sur cette traduction. Le royaume de Dieu est déjà en vous. Qu'est-ce que je cherche à l'extérieur ? Ce que Dieu est venu installer à l'intérieur. Quand je suis encore dans des troubles, dans la confusion, c'est que j'ai oublié finalement que son royaume était déjà dans mon intérieur. Je n'ai pas besoin d'habiller une belle chambre pour qu'elle soit une belle salle de prière ou d'avoir une petite chapelle à côté de chez moi pour vraiment avoir un endroit parfait. J'ai déjà la chapelle de mon cœur où le Seigneur a établi son royaume. Le royaume de Dieu commence par toi et moi. Une dernière version. Le royaume de Dieu est parmi vous. Nous formons un peuple. Nous formons une habitation. Mais nous formons des habitations. Chaque cellule que nous formons, cellule du couple, cellule familiale, même la propre, déjà la première, c'est la cellule individuelle. Mais ensuite, couple, familial, d'église, locale, église de la ville, chaque cellule que nous formons, Dieu vient habiter au milieu. Dieu vient habiter parmi nous, parmi cette cellule. C'est pour ça, en fait, que Jésus va dire, mais le salut est entré dans ta maison, Zachée. Parce que si toi, du coup, tu avais déjà eu ton cœur qui avait été touché, moi, je te permets que le salut rentre dans ta maison. Dans la maison où il y a ta femme et tes enfants. Où tes voisins peuvent voir, peuvent goûter, peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier, en fait, dans cette maison ? Oui, le salut est une affaire personnelle, mais quand le salut rentre, il touche toute ta maison. C'est pour ça que nous avons régulièrement, dans les évangiles, dans les actes, toi et ta famille, toi et ta famille, toi et tes enfants, toi et tes enfants, toi et ta famille. Ça ne concerne pas que vous, pas que nous, pas que soi. L'évangile n'est pas qu'une affaire personnelle. L'évangile est une affaire de famille. C'est pour ça que le réflexe qu'elle va faire, cette dame, c'est de courir pour aller voir qui ? Ses voisins, sa famille, tout le monde. Car alors que le salut est venu la toucher personnellement, alors qu'elle a goûté à quelque chose d'extraordinaire, eh bien, il faut qu'elle en fasse profiter à tout le monde. Et c'est la première ville, finalement, du coup, en fait, qui est touchée. C'est une ville qui est païenne. C'est une ville qui ne ressemble pas tout à fait à la bonne droiture juive. Légèrement à côté. Jésus vient et nous surprend. Jésus vient et nous surprend. Aussi, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, parmi vous, en vous, entre vous. Même si nous avons des belles églises par moment, nous savons qu'en Allemagne, les protestants ont de très très belles églises qui ressemblent évidemment aux églises catholiques qu'on peut avoir en France. Mais ce n'est pas le bâtiment qui est la clé. Même notre temps dans ce bâtiment ici n'est pas la clé. C'est notre cœur qui est la clé. C'est notre cœur que le Seigneur cherche. Je peux venir ici tous les jours, ou toutes les semaines comme un orphelin, mais je peux venir une fois par mois comme un fils. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Le robinet n'est pas extérieur. Les écluses ne sont pas extérieures. Dans la Bible, il est parlé parfois du ciel, parfois des cieux. Quand il est parlé du ciel, c'est souvent du coup du ciel terrestre. Quand il est parlé des cieux, c'est le ciel spirituel, c'est là où Dieu habite. Quand il est parlé des oiseaux dans le ciel, les oiseaux du ciel, nous voyons très bien de quoi il s'agit. Mais quand il est parlé finalement du coup le royaume des cieux, le royaume, c'est le royaume de Dieu. L'accès vers les cieux, encore une fois, il est en nous. Les écluses sont en nous. Si j'attends d'être arrosé par une pluie d'en haut, je vais attendre longtemps. Ou alors je vais vivre des moments. Parce que oui, le Seigneur, il donne aussi, il déverse aussi. Mais tout se passe à l'intérieur. Ce qui est durable, c'est ce qui est fait à l'intérieur. Ce qui est durable, c'est ce qui est travaillé dans mes entrailles. Ce qui est durable, c'est ce qui est dans mes profondeurs. C'est ça qui est durable. Si jamais je me laisse aller dans la présence du Seigneur, quand je viens comme un petit enfant, que le Seigneur me dit « donne-moi à boire ». J'ai soif de ta confiance, j'ai soif de ta foi, j'ai soif de ton cœur. Alors oui, je peux lui donner ce que j'ai. Je peux lui donner ma confiance, je peux lui donner ma foi, je peux lui donner mon cœur. Et là, le Seigneur peut me dire « mais laisse-moi te donner de l'eau vive ». Notre réponse devait être « mais bien sûr, mais remplis-moi à ras-bord, Seigneur. Fais-moi déborder, je veux que cette eau qui est en moi jaillisse. Et alors je vais couler dans le fleuve, puisque le fleuve est en moi. Si le fleuve est en moi, je n'ai pas besoin d'aller dans le fleuve, il est déjà en moi. Si le fleuve est en moi, je n'ai pas besoin de l'attendre qu'il tombe du plafond, il est déjà en moi. Et alors, quand je vais aller vers les autres, eh bien je pourrais aussi aller voir les autres en leur posant la question, veux-tu me donner à boire? Veux-tu me donner ta confiance? C'est sur ce biais-là que je peux après partager avec celles et ceux que le Seigneur nous envoie. Pas plus tard que cette semaine, et je terminerai là-dessus. J'attendais tranquillement mon bus. Ça devait être à la fin de la journée, il y avait plus grand monde. J'étais à Valence, je voulais bien rentrer chez moi, j'avais encore au moins 2 heures de transport pour rentrer chez moi. Et le bus ne passait pas. Et je me disais, oh, bon, bah, du coup, j'aurai pas le train, du coup, il faudra que j'attende du coup celui d'après, il sera encore dans 1h30. Puis je dis, bon, Seigneur, c'est pas grave, j'attends. Puis vient une personne, un homme, une quarantaine d'années, et puis qui me regarde, on discute rapidement sur le bus qui ne vient pas. Et puis, en fait, rapidement, je commence un peu à discuter, à lui poser des questions. Et tout de suite, lui, il embraye en me disant « Mais et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Alors je lui explique un petit peu, je lui dis que c'est un peu particulier, que j'envoie des courriers religieux pour les enfants, pour qu'ils puissent découvrir la Bible par eux-mêmes. Il est interpellé. Il me dit « Mais faites ça ici ?»« Oui, tout à fait, oui. » »« Mais vous ne pouvez pas le faire de Lyon ?» Je dis « Ben, je suis venu parce que du coup, j'ai été appelé pour ça. » Ça l'a interpellé. Et il me dit, mais religieux, mais c'est chrétien, c'est catholique? Je dis, tout à fait, c'est chrétien. Il me dit, mais moi, je suis catholique. Je dis, ben, donc vous êtes chrétien? Il me dit, oui, tout à fait. Il me dit, voilà, dans ma famille, on est catholique depuis longtemps. Et hop, naturellement, il commence à partager là où il en était. Que la vie était difficile, qu'il ne trouvait pas de travail. Et naturellement, ce qui m'est venu, c'est de lui partager, en fait, juste ma rencontre avec le Seigneur. Le meilleur que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est votre relation avec le Seigneur. Donc quand on évangélise quelque part avec un gros mot, quand on partage finalement du coup la bonne nouvelle, si je partage une relation extérieure, les gens ils le sentent. Si je partage un message, les gens le sentent. Mais si je partage quelque chose qui vient de mes profondeurs, une rencontre personnelle, ou juste, je peux juste partager en quelques instants comme ça à la personne, mais regarde, juste te raconter en fait ce que le Seigneur a fait dans ma vie, juste à ce niveau-là. La personne en fait après elle est touchée. Elle n'est pas touchée parce que du coup on a bien parlé, elle est touchée parce que le Seigneur fait un écho dans sa vie. Parce que le Seigneur est le même pour chacun d'entre nous et il ne fait aucune différence, même avec ceux qui ont des vies dissolues. Ne nous auto-justifions pas parce que nos vies sont bien rangées. Soyons attentifs à ce que le Seigneur est en train de faire en nous et à côté, en dehors de nous. Ces fleuves d'eau vive qui jaillissent, Elles sont pour nous combler de joie, mais elles sont aussi pour donner à boire à ceux qui ont soif. J'aimerais simplement prendre un petit temps où chacun peut rentrer en son lui intérieur, en son elle intérieure, dans le secret, là où le Père qui voit dans le silence, qui voit dans le secret, l'attend. On peut fermer les yeux, ça peut nous aider. Seigneur, merci parce que tu guéris nos vies. Seigneur, merci parce que tu es venu jusqu'à nous alors que nous ne méritons rien. Seigneur, et encore aujourd'hui, tu viens. Tu vas avoir une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Tu veux une communion avec chacun d'entre nous. Tu veux un temps de partage autour de la table. Où nous partageons ensemble. Nous partageons ta vie, nous partageons tes paroles. Nous partageons ton eau, Seigneur. Seigneur, pardon, parce que trop de fois, je t'ai cherché en dehors. Alors que toi, Seigneur, tu viens à l'intérieur. Seigneur, pardon, parce que souvent, je suis un pharisien qui m'auto-justifie. Alors que toi, tu attends simplement des mains ouvertes et un cœur d'enfant. Seigneur, je veux encore goûter chaque jour ta bonté, ta joie, ta paix, ta justice. Seigneur, alors que je t'ai appelé toute ma vie, toi, tu es déjà là. Seigneur, aide-moi jour après jour à te retrouver à l'intérieur de moi-même, afin que je puisse te laisser couler, te laisser faire. Seigneur, tu sais là où j'en suis aujourd'hui. Tu connais mes défis. Tu connais aussi ce qui fait obstacle dans ma tête, dans mes pensées. Eh bien, je veux avant tout soumettre mon cœur. Soumettre mes entrailles, me laisser imprégner par toi dans mes entrailles. Seigneur, merci pour ta visite dans mes entrailles. Et tu ne fais pas que visiter, tu viens t'y établir. Tu viens y faire domicile. Tu viens habiter. Et dans ce lieu secret, nous pouvons, dans le silence, nous laisser interpeller et ne pas avoir des paroles vaines, mais que notre cœur puisse parler au Seigneur. Aussi, oui, notre Père qui est dans les cieux. Que nous reconnaissions ton nom. Que nous reconnaissions qui tu es. Que ton nom soit sanctifié. Oui, Seigneur, dans ma vie, dans mon cœur, d'abord, là où tu as établi ta maison, Seigneur, eh bien, que ton règne vienne. Moi qui suis sur la terre, Seigneur, eh bien, que ton règne vienne. En moi. Seigneur, nous savons que tu prends soin de chacun d'entre nous. Tu prends soin de moi, chaque jour, aujourd'hui. Donne-moi de ton pain pour aujourd'hui. Nourris-moi, Seigneur, pour aujourd'hui. Ne me donne pas le pain de demain. Donne-moi le pain d'aujourd'hui, Seigneur. la bonne quantité pour aujourd'hui. Seigneur, alors que tu nous approches, eh bien Seigneur, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et nous t'en prions, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais là où on en est. T'en supplions, Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Seigneur, en toi est la vie. Nous voulons nous reposer en toi, nous voulons habiter en toi. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous de nos conceptions, de nos doctrines bizarres.